Ce soir, nous voyons la quatrième partie et nous nous arrêterons sur la divinité du Saint-Esprit et nous verrons une partie de l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons vu déjà les attributs de Dieu. Nous avons vu la divinité de Jésus-Christ. Nous nous sommes arrêtés sur la définition même de la Trinité ou la Triunité. Et donc, il nous reste à prouver que le Saint-Esprit est aussi une personne divine. Alors, nous allons voir deux choses ce soir. Nous allons voir premièrement que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Et puis nous allons voir aussi qu'il est une personne tout simplement divine. Dieu le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, et il a différents noms. On va laisser partir les enfants. Voilà. Plusieurs noms lui sont affectés. On l'appelle en particulier l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus. Bref, il a différentes appellations. On va voir ça ensemble. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. L'Éternel parle de son esprit. Romains 8, 2. Il y a donc plusieurs. Non, pardon. Ésaïe 11, 2 plutôt. Il y a donc plusieurs versets. Ils s'affichent là. Nous allons les lire ensemble. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Un esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 61, verset 1er, le définit encore différemment. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il est question ici, bien sûr, de la venue de Jésus-Christ et du ministère de Jésus-Christ. Matthieu 10, 20 nous dit : Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père, avec un P majuscule, qui parlera en vous ou à travers vous, l'Esprit du Père. Et enfin, acte 16, 7. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc on voit qu'il y a différentes appellations, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, etc. Il est aussi l'Esprit de vérité. Il est l'esprit de vie, de foi, d'amour, de force, de sagesse, de grâce, de gloire, de sainteté, etc. Nous allons voir ça ensemble. Premier verset, Jean 14, 17. Esprit de vérité. En moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous, il sera en vous. Un esprit de vérité. On peut comprendre alors comment et combien Dieu peut haïr le mensonge. Quand il définit que l'esprit de vérité est en nous. Et qu'il est dit dans l'Apocalypse et dans d'autres passages que les menteurs ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Si l'esprit de vérité est en nous, Dieu ne peut pas concevoir alors le mensonge et il ne peut même pas le tolérer. Verset suivant, c'est Romains. Un esprit de vie. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. De Corinthiens 4, 13. Un esprit de foi. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Un esprit de foi, un esprit de vie, un esprit de vérité. De Timothée 1, 7. Allô ? Il n'y a personne ? Alors, il n'y a pas de Timothée 1, 7 ? Hébreux 10, 29 ? Alors, on y va. De Timothée 1, 7, je vous le cite quand même. Qu'est-ce que j'avais mis ? Ah oui, c'est l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides Au contraire, dit-il, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Tout ce dont vous débordez chaque jour quand je vous regarde. Pourquoi y a-t-il des murmures dans la salle? Donc on a hébreu, voilà, j'en ai oublié. Hein.
Tu me notes sur la feuille, ça je le rajouterai. Tu me notes sur la feuille, ça je le rajouterai, j'en manque un. Tu notes qu'il en manque un, ça je le rajouterai.
De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé, et il est question ici de l'Esprit de grâce. L'Esprit de grâce que Dieu a accordé, a donné. Ça fait partie des textes qui semblent sévères, n'est-ce pas, quand on les regarde. Il n'est pas question d'un converti ici. Hein. Il est question d'hommes, de femmes qui connaissent bien les choses de Dieu, mais qui, à un moment donné, commencent à les négliger, à les mettre de côté, qui ne prennent plus en considération l'Esprit de grâce. Ils ont comme foulé aux pieds, l'Habit nous dit, le Fils de Dieu. Ils l'ont tenu comme pour profane. Ils ne tiennent plus compte du sang de l'Alliance. 1 Pierre 4,14. Un esprit de gloire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Je pensais entendre des Alléluia ou des Amen, mais non. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose. Je le refais, hein. Alors, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Ah, ils suivent, hein. J'ai pas l'impression que l'amen soit bien sincère quand même, hein. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous, sur nous. Alléluia. Nous, on n'aime pas souffrir, c'est vrai. Mais la Bible nous dit, si vous souffrez pour Christ, c'est parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu est sur vous. Romains, chapitre 1er, verset 4, nous l'avons. Mais le suivant, clique de suivant. Non, alors je vous le lis. Il fut, donc Jésus, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 1er verset 4. Un esprit de sainteté. Alors on a vu un esprit de sainteté, un esprit de gloire, un esprit de grâce, de sagesse, de force, d'amour, de foi, de vie, de vérité, etc. On se rend compte que cet esprit-là a bien des qualités et bien des actions à apporter. Il est donc une personne à part entière. Et pour certains, c'est vrai que le Saint-Esprit est comme une action de Dieu. Et souvent, on a pu voir, que ce soit dans certaines églises ou dans certains mouvances ou mouvements religieux, on s'arrête sur une notion de l'esprit qui n'est pas toujours tout à fait exacte. Le Saint-Esprit, parfois, est considéré comme une action de Dieu. Il est considéré comme un souffle. Peut-être tout simplement parce que le mot « esprit » veut dire « souffle ». Mais le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une expression figurée d'une énergie qu'on pourrait appeler divine. Le Saint-Esprit, c'est pas simplement cela. Et nous allons voir ensemble que le Saint-Esprit a tous les attributs d'une personnalité distincte comme vous et moi. Et puis nous allons voir aussi qu'elle est pleinement incluse dans la Trinité parce qu'elle a aussi tous les attributs de la divinité d'une personne divine. Alors on va essayer de prendre plusieurs exemples et encore une fois, comme jusqu'à présent, je vous donne beaucoup de versets, tout simplement parce que il est important de baser une doctrine sur la parole de Dieu. Et pas de dire simplement, je pense que c'est comme ça, ou de dire la Bible dit, mais sans apporter véritablement des versets qui sont là à l'appui. Donc pour définir une doctrine, pour définir un dogme, pour définir une base théologique, il est important de dire, mais voilà, la Bible dit ça. Donc c'est pour ça que nous en tirons notre foi, une croyance, une certitude et une pleine conviction. Parce que la Bible dit ça, elle ne dit pas autre chose. Et en même temps, ça nous fait du bien. Moi ce matin, en revoyant toute cette étude, j'ai rajouté plein de versets. je me suis fait un bien fou parce que je me suis rendu compte de tout ce que le Saint-Esprit pouvait faire et était capable de faire dans notre vie. L'Esprit-Saint est doué de pensée, de connaissance de langage et de volonté. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10, il est dit ceci, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi des hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On lira d'autres textes tout à l'heure qui vont confronter cela. Et donc nous nous rendons compte par rapport à cela, que le Saint-Esprit n'est pas simplement une masse, il n'est pas simplement une action, une puissance, il n'est pas simplement sous une forme de souffle, de vent, de colombe ou autre, mais il est doué d'une réflexion, il est doué de pensée, il est doué de connaissance, il est doué de langage, il est doué de volonté également. On peut le traiter véritablement comme une personne. Pourquoi ? Eh bien, on va le voir ensemble. Parce que tout simplement, on peut lui mentir. On peut le tenter, on peut lui résister, on peut l'attrister. On peut l'outrager. D'autre part, on se rend compte qu'il a toutes ses qualités de véritable comme une personne. Pourquoi ? Parce qu'il enseigne, il va témoigner, il va convaincre, il va conduire, il va entendre, il va parler, il va annoncer, il va proclamer. Donc il a un certain nombre de qualités qui nous fait voir que, ben oui, il est véritablement une personne. Il n'est pas un esprit que nous n'arriverions pas à définir. Si, on peut le définir, et avec la parole de Dieu. Alors il a une volonté. Il souffle où il veut, nous dit-il. Jean 3,8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et il est dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit-Saint. Il a une volonté, il souffle. Il donne les dons également, et la Bible nous dit qu'il donne les dons comme il veut. 1 Corinthiens 12,11 nous dit, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'Esprit est à la base de cela. On a vu déjà dimanche que Dieu avait une fonction, Christ avait une autre fonction, et que le Saint-Esprit, dans le domaine des dons spirituels, avait une troisième fonction, celle de communiquer, de donner. Le Saint-Esprit possède l'amour, ça c'est intéressant ça. Et non simplement il possède l'amour, mais il a pour objectif de répandre l'amour. Et dans le verset suivant, il nous est dit ceci, « Je vous exhorte, Romains 15,30, frères, et sœurs, par la même occasion, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Et Romains 5,5 nous dit, « Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, comment ? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il a pour objectif de répandre dans le cœur de l'homme et de la femme l'amour de Dieu. De répandre cette compassion et cette fidélité, cet amour profond que Dieu a pour l'humanité. Le Saint-Esprit également, il nous parle. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Dans Actes 13.2, il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, tiens, eux aussi, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Beaucoup se sont interrogés en disant, mais comment le Saint-Esprit a pu intervenir ? Et ceux qui s'opposent notamment au baptême dans le Saint-Esprit et à la vie d'esprit disent, mais ça c'est un gros point d'interrogation pour eux. Ils se disent, mais comment le Saint-Esprit a pu se manifester à cette époque-là ? De quelle manière ? Comment a-t-il pu dire, mettez à part Barnabas, Saul, etc. Mais c'est une réalité encore aujourd'hui. L'Esprit-Saint parle, si nous savons l'écouter, si nous savons être à son écoute. Parce qu'il peut parler et nous ne pouvons ne pas forcément toujours l'écouter. Et on verra d'autres textes justement qui nous parlent que le Saint-Esprit s'adresse à nous, mais nous on a nos oreilles fermées. C'est là parfois la difficulté pour nous de dire, mais Dieu est tout puissant, il pourrait enlever les cotons-tiges. Et on se dit, mais pourquoi il ne le fait pas ? Parce que Dieu nous laisse libres, il nous laisse responsables, et il nous laisse tout à fait dans la liberté de dire « Oui Seigneur, j'écoute ta parole, je rabaisse mon orgueil et j'accepte la parole que tu me donnes » ou de dire « Mais non, je reste sur ma position, je reste sur ce que je suis, parle toujours, je prends ce qui m'intéresse, le reste, je le laisse. » À n'importe quel moment de notre vie, à n'importe quel moment de notre cheminement spirituel, nous avons la possibilité à un moment donné de nous détourner de la voix du Saint-Esprit et de ne plus l'écouter, parce que ça ne nous plaît plus peut-être de l'écouter. Mais lui, il parle et il s'adresse. Il soupire également, l'abbé nous dit, et il intercède. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On y reviendra, je crois, dans un petit moment. Il rend témoignage, la Bible nous dit, à notre esprit. Juste une parenthèse peut-être, est-ce qu'on peut revenir sur le verset précédent ? Juste une parenthèse, parce que ça aussi, ça reste parfois un grand point d'interrogation pour certains. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il est question ici de l'intercession. Il est question ici de notre position devant Dieu. Mais la Bible nous dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. D'où la nécessité, quand nous sommes dans la présence de Dieu, de ne pas uniquement faire toujours fonctionner notre intelligence, mais de laisser le Saint-Esprit nous envahir, et de laisser le Saint-Esprit descendre sur nos vies, et de laisser le Saint-Esprit nous inspirer lui-même des sujets qui sont à aborder. Et parfois, on ne va pas même pouvoir les formuler, ces sujets, je dirais, de manière audible, pour être très terre-à-terre et qu'on comprenne bien, avec un langage français. On va avoir peut-être même beaucoup de mal à dire « mais je prie pour ça, je prie pour ça, je prie pour ça ». Mais on va se laisser saisir par le Saint-Esprit, on va commencer à parler en langue. On va commencer à parler dans une langue que l'homme ne connaît pas, l'homme ne comprend pas, mais que Dieu seul connaît. Et l'apôtre nous dit que quand nous commençons à parler en langue, qu'est-ce qui se passe ? Nous disons des mystères à Dieu. Des mystères pour nous, mais pas des mystères pour l'Esprit. Et à ce moment-là, on prie d'une manière beaucoup plus excellente. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons prier à ce moment-là uniquement que dans la volonté de Dieu. On ne peut pas faire autre chose. Alors que par notre intelligence, on peut prier dans quelque chose qui ne serait pas la volonté de Dieu. Parce que c'est notre volonté à nous. Comprenez ce que je veux dire ? Et la différence avec cette notion-là, alors ça ne veut pas dire, encore une fois, de l'équilibre, frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps parler en langue et prier en langue et délaisser le reste. Ce n'est pas du tout ça ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas non plus uniquement prier comme on a l'habitude de le faire et délaisser complètement la prière en langue. C'est d'avoir un équilibre entre les deux. Et il y a des moments, laissons le Saint-Esprit nous saisir, que ce soit d'une manière personnelle, chez nous, dans notre culte personnel, dans notre relation avec Dieu, ou que ce soit dans l'Église. Quand nous avons un temps de prière, souvent la timidité, on n'ose pas, on a honte, mais je crois que la Bible nous dit, celui qui aura honte de moi, moi j'aurai honte devant le Père. Et je crois que la honte et toutes ces choses-là, il faut le mettre de côté, parce que ça, c'est les affaires du diable. Et nous, on n'a pas besoin d'avoir honte. On l'a cité tout à l'heure, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et dans la sagesse, on rejoint l'équilibre. Et dans l'amour, on rejoint le respect mutuel, l'acceptation de l'autre, de notre compréhension de ce que Dieu nous donne. Et quand on commence à développer cette prière et cette intercession, cette vie de l'esprit abondante, je vous assure que nous rentrons dans un domaine spirituel que nous n'avons jamais connu auparavant. Et on entre dans une présence de Dieu vraiment particulière, qui non seulement nous fait un bien pour nous, parce qu'on a l'impression, même si le combat spirituel est des fois là, et je peux vous assurer que quand vous rentrez dans ce domaine-là, il y a des combats parfois même intérieurs qui sont incessants et qui sont parfois douloureux, mais en même temps, parce que nous allons persévérer et que nous voulons aller jusqu'au bout, alors nous avons la grâce de Dieu qui vient nous toucher, et on entre dans une présence de Dieu que si nous prions simplement parfois comme cela, par habitude, en disant « Seigneur, bénis ceci, bénis cela, bénis la journée, etc. », on ne sait pas ce que c'est que la présence de Dieu. Quand on prie entre le café et la tartine, on ne sait pas ce que c'est que la présence de Dieu. C'est pas vrai. Moi, il m'est arrivé de prier des fois comme ça. Parce qu'on est pressé, parce qu'on a toujours quelque chose à faire. on n'a pas la présence de Dieu. C'est pas vrai? Et quand on prend un peu plus de temps, quand on prend vraiment le temps de se placer devant Dieu, et quand nous allons lancer très bientôt la sentinelle de prière où les chrétiens vont pouvoir s'engager à prier une heure par semaine, là on aura du temps pour se placer devant Dieu, pour sentir sa présence. Alors vous sentirez l'oppression, vous sentirez l'ennemi qui ne veut pas que vous soyez dans la prière, il ne veut pas que nous soyons dans l'intercession et le combat spirituel. Mais quand nous allons persévérer et aller jusqu'au bout, alors la présence de Dieu descendra telle sur nous que vous allez goûter à des choses que vous ne voudrez plus jamais laisser ou délaisser. Mais vous allez les approfondir et aller plus loin. Et mon désir, et je vous demande pardon si parfois je peux peut-être être soit maladroit ou brusque dans la manière dont je peux peut-être parfois amener certaines choses ou une certaine notion de la vie spirituelle, je m'en excuse sincèrement, mais ce qui brûle dans mon cœur, c'est de vous amener vraiment dans cette présence de Dieu qui fasse qu'une fois que vous l'avez goûtée, vous n'avez plus envie de la quitter. Mais vous y passeriez des heures et des jours si vous pourriez le faire. Et ce qui brûle dans mon cœur à vous faire connaître, c'est ça, cette véritable présence de Dieu. La Bible nous dit qu'il rend témoignage également à notre esprit. Romains 8,16 nous dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne aussi. Jean chapitre 14, verset 26. Jésus dira ceci, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand je vous parlais il y a quelques semaines de cela, que nous sommes là, bien sûr, aussi, les ministères sont là, les pasteurs sont là, les enseignants sont là pour enseigner, pour éduquer, pour former. C'est une nécessité. Et nous avons besoin de proclamer la parole de Dieu et que chacun la reçoive. Mais, rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelques réunions de cela, que le meilleur des enseignants, c'était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand on est tous les deux avec lui, et je vous disais à ce moment-là que quand il commence à parler à notre cœur, parce qu'on est tous les deux comme dans un cœur à cœur, un face-à-face, alors là on ne peut pas dire non, la parole que tu donnes elle est pour un autre. La parole que tu donnes elle est vraiment pour moi. Et on ne peut que prendre cette parole-là. Et le Saint-Esprit a ce rôle-là, oui. C'est Jésus lui-même qui le dit, il vous enseignera toutes choses. Et Dieu sait si sa parole est là pour nous enseigner d'une manière extraordinaire, mais le Saint-Esprit veut nous amener encore plus loin. Pas plus loin que la parole, et plus loin que les bornes de la parole, comprenez cela. Mais il veut nous amener dans la conception et la compréhension de toute la parole. Or, qui pourrait lever la main ce soir en disant « Mais moi, je vis pleinement toute la parole, je connais toute la parole, je comprends toute la parole, et je marche pleinement dans toute la parole. » Bien malin celui qui pourrait le faire. Et je crois que le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre justement des parties de la parole que nous n'avons pas encore compris. Quand je prends mon cheminement spirituel personnel, je croyais dans les 15 premiers jours que je m'étais converti, parce que j'avais reçu un enseignement étant plus petit, et que le jour de ma conversion, tout est venu à la surface, et que toutes les histoires bibliques, les théories évangéliques, etc., tout est revenu, j'avais l'impression que je connaissais tout. Que j'avais même plus besoin de lire la Bible, parce que toutes les histoires qu'on commençait à prêcher, je les savais. Mais quand je regarde aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que tu as des choses encore à apprendre? Et on se rend compte qu'il y a forcément une progression, et Dieu nous prend là où on est, et petit à petit, il nous fait grimper les échelons. Et il nous enseigne, il nous apprend. Et quand je reviens simplement à quelques années en arrière, je me dis, tu te rends compte, tu prêchais ça il y a quelques années en arrière, quand des fois je regarde certains messages, je me dis, mais t'as intérêt vraiment de les revoir maintenant. Hein. Parce que finalement, il y a des choses qu'on n'a pas pensées, qu'on savait pas, qu'on connaissait pas, et je crois que dans 10 ans, ça sera certainement pareil. Et j'ai vu un autre pasteur qui doit avoir 30 ans de ministère, il m'a dit, mais ce que je prêchais il y a 10 ans ou 15 ans, même si c'est la parole, je me rends compte qu'avec ce que le Seigneur nous a enseigné au fur et à mesure de ces années, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait rajouter, qui sont toujours la parole, mais qu'on n'avait pas pensé avant. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et puis également, il est une personne dans le sens où, bien sûr, on peut lui mentir. Vous connaissez cette histoire dans Actes chapitre 5, verset 3, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» et que tu aies retenu une partie du prix du champ. On peut donc mentir au Saint-Esprit. On peut tricher avec le Saint-Esprit. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Ah, ça c'est la grande question. Ah, le blasphème contre le Saint-Esprit. Je ne vais pas le développer ce soir, mais je vais simplement citer le verset. Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. J'aimerais vous dire juste une chose, pour pas développer cela, mais donner simplement un éclaircissement. Le but du mensonge, et donc il ne veut pas que nous connaissions pleinement la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, il met dans le cœur d'hommes et de femmes, et parfois même de chrétiens, la pensée qu'ils ont péché, parce qu'ils ont comme blasphémé contre le Saint-Esprit. Et si ça n'a pas été fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est peut-être fait dans le passé. Et on a donc des hommes et des femmes, des croyants, des chrétiens parfois, qui vivent avec une certaine forme de doute ou de remords, parce qu'ils disent, mais est-ce que j'aurais pas blasphémé contre le Saint-Esprit ? Et en même temps, ils vont essayer de justifier tous les problèmes qu'ils ont à ce jour, spirituels ou autres, en disant, mais si je suis dans cette situation-là, c'est que certainement j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Alors j'aimerais couper court très rapidement à cela, en vous disant que si déjà vous avez cette réflexion-là, c'est que certainement vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que si vous aviez blasphémé contre le Saint-Esprit, certainement que vous ne seriez déjà pas ici. Et d'autre part, vous n'auriez même pas de conscience suffisante pour penser que ce que vous faites c'est bien ou c'est mal. Parce que justement vous aurez, comme l'apôtre Paul le dira plus loin, perdu véritablement la bonne conscience. Donc si vous posez la question, c'est que certainement vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Or, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est pas simplement dire des gros mots contre le Saint-Esprit. Et certains ont cru ça pendant longtemps, ils pensaient que parce qu'ils avaient insulté Dieu, insulté Jésus ou insulté le Saint-Esprit, alors que c'était blasphémé. Mais c'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais on développera ça une prochaine fois. Alors rassurez-vous, et si vous avez cette pensée-là, j'aimerais vous dire que ça c'est une pensée de l'ennemi. Et il cherche à quoi ? Ben, il cherche simplement à mettre le doute dans votre cœur. À vous confondre, à mettre de la confusion, à mettre du doute, pour que vous ne saisissiez pas, dans le nom de Jésus-Christ, véritablement, les victoires que le Seigneur veut vous donner. Et tant que vous restez comme ça, dans une position, en disant, mais est-ce que j'ai pas fait ça, est-ce que j'ai pas fait ça ? Eh bien, le diable, il se marre, parce que, à ce moment-là, vous êtes perturbé, vous êtes troublé, vous êtes angoissé, vous n'êtes pas vraiment sûr de votre foi, vous allez peut-être même douter de votre salut et de la vie éternelle. Et ça, c'est l'objectif de l'ennemi. C'est pour ça que dans Éphésiens 6, il est question du casque du salut. Parce que ça, c'est quelque chose que nous devons garder précieusement lorsque Dieu nous l'a communiqué, lorsque Dieu nous l'a donné. Et l'ennemi veut que nous soyons troublés de cette manière-là. Or, Jésus veut que nous soyons libres. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Et si nous sommes affranchis par Christ, nous sommes, l'Abbé nous dit, réellement libres. Donc ne vous, si c'était le cas, ne vous arrêtez plus sur cette pensée-là. Je vous dis, le fait déjà que vous soyez en réflexion contre ça, c'est que certainement vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Par contre, nous pouvons nous opposer au Saint-Esprit. Ah, ça c'est autre chose. Acte 7,51 nous dit, homme au cou raide. Oh, je pense que les femmes, on pourrait les mettre aussi là. Incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et il dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, n'est-ce pas ? Il avait quelque chose à dire, il le disait. Quelque part, c'était bien, il savait à quoi s'en tenir. Homme au cou raide, incirconcis de cœur, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc nous pouvons nous opposer au Saint-Esprit. Certains s'opposaient au Saint-Esprit avant la venue de Jésus-Christ, et d'autres se sont opposés aujourd'hui encore au Saint-Esprit après la venue de Jésus-Christ. Et il est dit dans Acte 28, verset 25, comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots, c'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe a dit, va vers ce peuple et dit, écoutez bien, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. On a ici un processus qui malheureusement existe encore aujourd'hui. Qui existe aujourd'hui dans notre monde, et qui existe aussi parfois aujourd'hui dans l'Église. Et qui existe parfois même parmi certains hommes ou certaines femmes, des frères ou des sœurs, des croyants, des chrétiens. Un processus qui fait que le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit proclame, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit guide, le Saint-Esprit montre, il nous fait voir la voie, et il n'attend qu'une seule chose, c'est que nous nous engagions dans la voie qu'il nous montre. Il ne veut pas que nous nous engagions dans notre propre voie, il veut que nous nous engagions dans sa voie. Il parle à chacun d'entre nous. Et là, ici, il est dit, mais il parle au père des prophètes, comme le prophète l'a dit. Et vous entendez maintenant, mais vous comprenez rien. Vous regardez et vous y voyez plus rien. Pourquoi? Parce que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Quand on s'oppose au Saint-Esprit, ça produit en nous quelque chose de très simple. Notre cœur devient insensible. On n'est plus sensible à l'Esprit, on n'est plus sensible à l'onction, on n'est plus sensible quand le Saint-Esprit nous visite, on n'est plus sensible. On est insensible. Et alors on a toutes sortes après de conceptions humaines qui viennent, qui se greffent, mais qui forcément ne sont pas bonnes, même si parfois elles peuvent être empreintes de justesse ou de justice, elles sont malgré tout dans le contexte profond pas bonnes, parce que notre cœur est devenu insensible, et alors il n'est pas ouvert à l'onction et à l'action de Dieu. Le résultat de cela, c'est quoi? Mais c'est grave. C'est grave. On est devenu insensible, alors on endurcit notre oreille, on ferme nos yeux, on n'entend plus rien, on ne voit plus rien, et nous on est toujours en train de pleurer en disant « Mais Seigneur, tu ne guéris plus. Tu ne guéris plus !» Et il est dit ici, ils ne comprennent, ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Et vous savez, parfois la guérison du corps, elle ne vient pas parce que des obstacles sont dans notre vie, parce que des oppositions sont dans notre vie, parce qu'il y a comme des barrières, des murailles qui sont comme infranchissables. Pourquoi? Parce que nos oreilles sont fermées, parce que nos yeux sont fermés, parce que notre cœur est devenu endurci, parce que sur certains points, on veut rester comme ça et pas autrement. C'est nous qui avons dit qu'on était comme ça. Même si la parole de Dieu dit complètement le contraire, nous on dit, c'est comme ça. On endurcit notre cœur, on ferme notre cœur. Le résultat de quoi? Eh bien, c'est que tout simplement, Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas guérir. Dieu ne peut pas relever. Dieu ne peut pas agir. Il dit, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Je résiste à celui qui s'oppose à moi, mais celui qui s'humilie et qui a un cœur contrit, je lui fais grâce. Et je crois que si nous voulons vraiment une action puissante au milieu de chacun d'entre nous, dans notre vie, il nous faut arriver à avoir cette attitude de cœur humble et contrit devant le Seigneur. Et quand nous avons cette attitude-là, alors non simplement notre cœur s'ouvre, mais aussi notre intelligence, nos oreilles et nos yeux s'ouvrent à la parole et à la compréhension pleinement de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous nous opposons toujours au Saint-Esprit? Eh bien, on va voir la suite. Le Saint-Esprit, tout simplement, il s'attriste. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et le verset suivant, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. » Et regardez ce qu'il est dit. « Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. » Alors certes, c'est un texte de l'Ancien Testament, ils étaient sous la loi, nous on est aujourd'hui sous la grâce, c'est vrai. Et heureusement que Dieu ne nous combat pas, parce que il y aurait longtemps qu'on serait plus là. Néanmoins, dans le Nouveau Testament, sous la grâce, on peut encore aujourd'hui attrister le Saint-Esprit et ne plus être à l'écoute du Saint-Esprit et ne pas laisser le Saint-Esprit œuvrer dans notre vie. Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Et même si on s'arrête que là, malheureusement ça encore aujourd'hui, trop d'hommes, trop de femmes, trop de croyants, trop d'églises vivent ça aujourd'hui. Et je crois que nous avons besoin de nous repentir de cela. Nous avons besoin de nous repentir, de nous opposer au Saint-Esprit, de nous opposer à son œuvre. Je ne parle pas simplement de s'opposer à une action dans l'Église, mais de manière tout simplement personnelle parfois. Dans quelque chose que Dieu nous demande, dans la direction qu'il nous donne à chacun d'entre nous, et que nous disons non. Quand notre cœur commence à bouillonner pour quelque chose, parce qu'on sent au fond de nous-mêmes que Dieu nous appelle, que ce soit pour la prière, que ce soit pour l'intercession, que ce soit pour l'évangélisation, que ce soit pour un travail, que ceci ou un travail... Et on s'oppose au Saint-Esprit. Parce que la notion humaine nous dit non, non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Saint-Esprit est attristé. Quel est le résultat? On peut éteindre le Saint-Esprit. Vous pouvez avoir une église avec un enseignement formidable, une doctrine merveilleuse, avec une abondance de paroles. Mais même si la parole de Dieu est vivante, la parole dans l'église, elle sera morte. Parce que le Saint-Esprit a été éteint. N'éteignez pas l'Esprit. Et on peut éteindre l'Esprit. Et il y a un certain nombre d'églises qui, par leur attitude, leur action, ont éteint le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons veiller. Et nous devons faire attention à ce que le Saint-Esprit soit toujours à l'œuvre et soit toujours en action dans notre vie, dans l'Église, dans notre région et dans notre ville. On peut avoir une église ici et une église de l'autre côté de la rue. Il y en a une dans laquelle le Saint-Esprit sera vivant et dans l'autre il sera éteint. C'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, on le voit et on a des exemples. Mais le Saint-Esprit nous montre la voie. Il nous indique et il nous parle. Et dans Hébreux 9:8, il est dit « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. » Là, nous voyons dans l'Épître aux Hébreux que le Saint-Esprit montrait des choses. Il dirigeait. C'était pour l'époque de l'Ancien Testament. Acte 20:22. « Et maintenant, voici, lié par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. » Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Le Saint-Esprit est là, il montre la voie, il montre le chemin, il montre la direction. Et si nous voulons marcher avec lui, on ne sera pas exempt de tribulations, de souffrances ou de difficultés. Faites simplement la vie de l'apôtre Paul et vous avez tout de suite compris le tableau. Il a voulu marcher avec Dieu, il a marché avec Dieu, il a été fidèle avec Dieu, mais il a été jusqu'à être lapidé. Mais il s'est réjoui parce que c'était dans le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui a redonné la vie. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 4, pardon. Marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Vous connaissez ces versets. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi alors par l'Esprit. Et Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et ça rappelle notre salut, ils sont fils de Dieu. Alléluia. Donc non simplement il nous montre la voie, il nous montre le chemin, mais en plus il est là pour confirmer notre salut. Tous ceux qui marchent, qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont fils de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons être. Si j'en avais envie, quoi, c'est pas une obligation. Fils et filles de Dieu, si vous le désirez. Le Saint-Esprit peut nous pousser aussi à engendrer une action. Et je terminerai sur cela dans cette première partie, rassurez-vous. Acte 21:4 nous dit « Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Donc ça, c'est une situation aussi qui peut être vécue. J'aimerais apporter une petite parenthèse là aussi. Ils étaient dans une situation particulière, l'apôtre Paul devait partir, et la Bible nous dit que donc, poussé par l'Esprit, les disciples étaient là et disaient « Mais non, il faut pas que tu montes, il faut que tu restes ici, etc. etc. » Bon, Paul est parti quand même, je pense qu'il était aussi quelqu'un d'assez têtu. Et il a dit, il faut que je parte à Jérusalem, il faut que j'y aille, et donc il est parti. La parenthèse que j'aimerais faire, c'est que parfois, là aussi, il faut être équilibré. Parce que vous avez des gens, quand vous leur parlez, ils sont toujours poussés par quelque chose. Tout ce qu'ils font, c'est pas de leur faute, ils sont poussés. Un jour, ils ont presque failli tomber de l'estrade, mais c'était pas de leur faute, ils étaient poussés par Saint-Esprit pour tomber. Comprenez ce que je veux dire? Il y a toujours quelque chose, ils sont toujours poussés. Là encore, je crois qu'il faut être équilibré. Moi, je dois vous dire que même dans ma vie, dans mon ministère, je ne suis pas poussé. Et parfois même, il faut me tirer. Parce que ce n'est pas toujours évident. Et là, il nous faut être des hommes et des femmes de Dieu, équilibrés véritablement. Parce que le problème, c'est qu'après, on n'est plus crédible. Quand une fois, deux fois, trois fois, vous jouez ceux qui sont poussés, ceux après qui se rendent compte de dire, mais attends, il n'est pas poussé, il se pousse tout seul, là, il a sa main derrière le dos, il se pousse. Et le jour où vraiment le Saint-Esprit va vous pousser, vous serez plus crédible, le Saint-Esprit ne pourra plus vous utiliser. Et c'est là qu'il faut être équilibré dans la parole de Dieu. Il faut vraiment être sûr quand c'est le Saint-Esprit qui parle et qui dit, mais il faut que tu dises ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu agisses de telle et telle manière. Il faut que la conviction soit vraiment profonde, qu'elle soit là, que ce soit une parole de Dieu, et pas simplement un désir, une envie, une manière d'être ou de paraître, pour dire, mais moi je suis quand même spirituel, j'ai dit ça. Oui, mais ça ne sert à rien que tu aies dit ça, si ça ne s'est pas accompli. Ça ne sert à rien du tout. À la limite, tu es un mauvais ouvrier ou une mauvaise ouvrière, et tu n'as rien fait pour le Saint-Esprit, tu n'as rien fait pour Dieu. Au contraire, tu as peut-être même fait l'inverse. Et nous avons besoin d'apprendre lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu veut montrer. Et c'est un apprentissage, je crois, comme Samuel, quand il a été appelé par Dieu, pendant trois fois, il se demandait qui c'est qu'il appelait, quoi. Oui, Élie, c'est toi qui m'appelles. Non, 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 va te coucher. Va se coucher. Il reste là un moment. Samuel, Samuel. Il se lève. Bon, Élie, qu'est-ce que tu veux? C'est l'heure du café, du thé, ou je sais pas, tu veux quelque chose de particulier? Non, 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 va te coucher. Et ça, un certain nombre de fois, trois fois, jusqu'à un moment où le prophète, qui était assez avancé en âge, lui dise, mais c'est certainement Dieu, peut-être qu'il veut te parler. Donc simplement, tu lui réponds, et tu lui dis, ben voilà, je suis prêt, ton serviteur est là, il écoute, parle-moi. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Oh, nous, on voudrait aussi que Dieu nous parle de manière audible tout le temps. Ce serait tellement plus simple, certaines fois, qu'il nous attrape comme ça par la chemise en disant, hé, c'est pas là que je t'ai demandé d'aller, c'est là. Ce serait tellement facile. Mais c'est pas comme ça. Aujourd'hui, nous marchons par la foi. Et nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Et toutes les promesses, nous les saisissons par la foi. La vie de l'Esprit, nous la saisissons aussi par la foi. Et tout nous est communiqué par grâce, et nous les obtenons par la foi en lui. Et c'est de cette manière dont nous devons marcher aujourd'hui. Alors nous apprenons à marcher par la foi. Mais de la même manière que Samuel, chaque jour nous apprenons, et il nous faut apprendre en tout cas, à écouter Dieu nous parler, nous enseigner. Là encore, dans cet équilibre où Dieu ne nous parle pas tout le temps, c'est vrai. J'aimerais vous dire que Dieu parle. Il y a des moments où je suis dans la voiture et Dieu me saisit. Il y a des paroles qui me sont données, qui sont précises, qui sont claires. Elles sont nettes, elles viennent comme ça. Et des fois, j'ai l'impression de me prophétiser à moi-même. C'est comme une parole qui m'est donnée et je la prononce audiblement. Mais surtout, après, je l'écris. Et j'aimerais vous dire que les paroles qui m'ont été données il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière, elles se sont accomplies. Parce que ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles de Dieu. Et quand Dieu vous met quelque chose dans le cœur, quelque chose de profond, ça s'accomplit forcément. Parce que c'est lui qui détient la parole. Alors on peut apporter des paroles, on peut apporter des prophéties pour quelqu'un à l'extérieur. Mais des fois Dieu veut nous parler directement. Quand il voit que nous sommes dans une situation d'angoisse, quand il voit que nous sommes dans une situation où on ne sait plus où il faut aller, où on marche. Des fois c'est un mot, et un mot qui revient très fort. Des fois c'est une phrase complète. Des fois c'est plusieurs phrases, peu importe, qui sont là. Vous n'avez jamais vécu ça? J'ai l'impression d'être un extraterrestre là. Ah si, il y en a quand même quelques-uns, hein. Je crois que quand on marche avec Dieu comme ça, il faut apprendre. Il y a des moments où, dans la voiture, j'ai la radio, j'ai une cassette ou autre, et j'ai cette pensée qui vient, éteins, je veux te parler. Et j'éteins. Et je loue le Seigneur. Je parle en langue. Et j'attends. C'est lui qui veut me parler. Donc j'attends qu'il monte le volume. Et je continue à rouler. Et je suis dans sa présence. C'est pour ça d'ailleurs, des fois, je roule un peu vite, que je vois pas tout, parce que... Mais je trouve une excuse. Et quand on est dans ces moments-là, et c'est vrai que chacun, Dieu nous parle, moi je connais des gens, c'est Dieu leur parle le matin, parce qu'ils sont peut-être eux plus disposés le matin, ou d'autres c'est le soir, ou autre. Moi c'est en voiture, je passe ma vie en voiture. Et c'est vrai qu'à des moments donnés, Dieu va commencer à nous parler, et puis il va donner un mot. Et vous savez, c'est comme ça que j'ai vu des situations se débloquer. C'est comme ça que j'ai vu des moments où moi je voulais engendrer une action, je voulais faire quelque chose, et puis Dieu me dit, non, c'est pas comme ça que tu vas t'y prendre comme ça. Comme ça et comme ça. Et j'ai beau regarder autour de moi, je dis, mais d'où ça vient ça? Et il n'y a personne dans la voiture. Je suis tout seul, mais il y a une pensée qui me vient là. Il y a trois mots qui viennent. Il y a une phrase. Et Dieu nous parle comme cela. Et j'ai dit, ben, je vais voir si ça vient de moi ou si ça vient de toi, Seigneur. Et petit à petit, on apprend à entendre la voix de Dieu. Et on sait quand ça vient de nous. Puis on sait quand ça vient de lui. C'est un apprentissage. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'entrer dans la présence de Dieu pour apprendre à entendre la voix de Dieu, mais ça en fait partie aussi. Parce que nous sommes tous appelés. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Ne vous mettez pas dans la tête que c'est réservé à une élite. Il n'y a pas d'élite. Saint-Esprit parle à chacun d'entre nous. En tout cas, il veut parler à chacun d'entre nous. À nous d'avoir des oreilles, pas forcément grandes, mais disponibles, ouvertes, pour l'écouter. Je termine avec cette partie. Le Saint-Esprit est aussi une personne divine. On a vu qu'il était une personne, il écoutait, il agissait, il parlait, etc. Le Saint-Esprit est aussi une personne divine. Il est associé au Père, on va essayer d'aller un peu plus vite là, pour le baptême d'eau, par exemple, avec le Fils. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est également appelé Seigneur, dans 2 Corinthiens 3, 17. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça, c'est particulier, hein. 2 Corinthiens 3, 17. Vous avez déjà lu ça? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit Saint. Nous, on pensait que le Seigneur, c'était Dieu, c'était Jésus. Là, il est dit, le Seigneur, c'est aussi l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est aussi associé à Dieu. Il n'y a plus rien, là? Ah, d'accord. Actes, chapitre 5. Ça chauffe? Jean-Louis était parti déjà. Je vous lis, Actes chapitre 5, verset 3 à 5. Je ne suis pas sûr qu'il chauffe là parce que c'est un peu long. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie de ton prix? On l'a vu tout à l'heure, s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. On a déjà vu ça la dernière fois. Au verset 3, il est question ici de mentir au Saint-Esprit, et à la fin, il est question de mentir à Dieu. Et les deux ici sont assimilés. Une fois il ment au Saint-Esprit, une fois il ment à Dieu. Dans le psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin devant ta face ?» Loin de ta face, pardon. Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, vous connaissez ça, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc là, on a encore une association. Dieu, l'Éternel des armées, et son esprit. « Où fuirai-je loin de ta face ?» La face de qui? La face de Dieu, l'esprit n'a pas de face. C'est la face de Dieu. Mais c'est loin de son esprit également. Une association. Il est lié également fortement au Père. Jacques, chapitre 4, verset 5. « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en toi. » C'est avec jalousie qu'il le chérit. C'est le Saint-Esprit également qui établit les ministères. Acte 20, 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, etc. » C'est là le Saint-Esprit qui établit les ministères. Également, il est à l'origine des dons spirituels, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Hébreux 2, 4, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon sa volonté. Acte 21, 11. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme qui appartient à la ceinture, etc., etc., etc. Là encore, c'est une prophétie qui est définie. Il y a un homme qui vient, un prophète, et il parle dans le nom du Seigneur. 1 Timothée 4, 1 également. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Là encore, c'est l'Esprit qui parle, qui se révèle et qui accomplit une prophétie. Et il est bien entendu aussi le Saint-Esprit une puissance, Romains 15, 18, car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, et il est dit, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc il est aussi effectivement une puissance qui se manifeste et qui agit et qui accomplit des signes, des prodiges, et des miracles. Et 1 Corinthiens 2,4 nous dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Ce que nous allons voir bientôt. Il nous aide dans le combat spirituel également de la prière, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. De même aussi, l'esprit nous aide, Romains 8,26, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, on l'a cité déjà tout à l'heure. Et c'est pour cela qu'il est dit. Écoutez bien, mais l'esprit dit lui-même d'intercéder par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu alors qu'il intercède en faveur des saints. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on priait véritablement dans la direction de Dieu, et que si on priait par l'esprit, on ne pouvait forcément pas se tromper, parce que justement, c'est ce qui est confirmé ici dans ce verset, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur à l'heure des saints, et c'est pour ça qu'il est dit également dans le verset suivant, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Alléluia. Je termine bientôt. Il nous amène jusque dans le royaume de Dieu. Je termine sur ce dernier verset avant la conclusion. Romains 14, verset 17. Non, c'est pour la cassette que je dis ça. Après, on passe à une autre chose. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est encore là un des ministères de l'Esprit qui nous amène dans la joie, la paix, la justice, etc., etc. Je conclue maintenant. Le Saint-Esprit occupe la position de la divinité dans le Nouveau Testament, on vient de le voir, par le fait que le Saint-Esprit, quoi ? Mais le Saint-Esprit possède tous les attributs divins. Le Saint-Esprit accomplit des opérations divines. Que les déclarations dans l'Ancien Testament se rapportent à Jéhovah, l'Éternel, ou Dieu, elles se rapportent dans le Nouveau Testament au Saint-Esprit. Par le fait que le nom du Saint-Esprit est uni au nom de Dieu. Par tous ces moyens qui ne laissent aucun équivoque, Dieu alors dans sa parole proclame que le Saint-Esprit est bien une personne divine. Alors pourquoi certains refusent l'action de l'Esprit dans leur vie, dans l'Église, ou pourquoi dans ce monde certains ne comprennent pas ce que Dieu veut faire? Eh bien on l'a lu dans 1 Corinthiens 2, 13, il dit parce que nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, dit Paul aux Corinthiens. L'homme naturel ne peut pas accepter ces choses-là. Il faut que l'homme soit régénéré par la vie de l'Esprit, soit à l'écoute du Saint-Esprit, et alors après il devient juge des choses alors spirituelles. Or, nous sommes appelés à être remplis de la personne du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à être remplis, dans Éphésiens 5, 18, il dit « Soyez remplis d'Esprit ». Il est dit par exemple de Barnabas, qui arriva à Antioche, il était un homme plein d'Esprit Saint et de foi. Alors je crois quelque part, ressemblons à cet homme, plein d'Esprit Saint, plein de foi, plein d'amour, et que nous puissions nous laisser imprégner et guider par le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai fini, vous pouvez dire Alléluia. On a fait le tour des trois personnes qui forment la Trinité. La Trinité, nous le voyons, donc, est incontestable et incontournable dans le plan divin. Tout est articulé et géré par ces trois personnes. Et je termine en disant que rejeter une ou partie seulement équivaut à annuler l'intégrité de la parole de Dieu, ce qui serait alors un péché. Amen.